Radio Stable.
Morning Edition from NPR News.
Sí, Santinto de House.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
La première escale sonore d'un jour dans le monde nous emmène en Roumanie qui organise un festival de cinéma pour que les Roumains aient accès à de bons films. Eva Bétan viendra nous raconter. Nous sommes aussi aux îles Fidji, en plein pré-sommet de la COP 23, avec des îles pacifiques qui sont pressées de nous voir agir bien plus vite. 18h55, la chronique du journal Le Monde. Christophe Ayad avec l'homme le plus puissant du Proche-Orient. Mais avant cela, je vous emmène dans un pays dont on parle tout le temps, mais où on ne va jamais.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Voilà, on ne va pas la laisser parler longtemps, la dame. Et si on a choisi cet extrait sonore pour parler de la Corée du Nord, la fameuse présentatrice qu'on met à chaque fois en avant, c'est parce qu'on a rarement le choix des illustrations. Bonsoir Dorian Malovic.
Bonsoir.
Vous travaillez pour La Croix, vous travaillez sur la Corée du Nord depuis longtemps, depuis bientôt 25 ans, et vous en revenez 10 jours de périple dans ce pays, ce qui est rarissime en fait, et c'est pour ça qu'on a eu envie de vous entendre. D'abord, moi j'ai une curiosité, le visa pour la Corée du Nord, c'est long ou pas à obtenir?
Écoutez, je travaille depuis 20 ans sur le sujet. C'est vrai que ça se fait pas par une demande officielle à la délégation de Corée du Nord ici à Paris. C'est une histoire de contact, de patience, de relation. Il est vrai qu'en ayant publié plusieurs livres, la délégation a regardé, a lu, a scanné, a googlisé, a cherché à m'écouter, à voir un peu qui j'étais. Et ils sont arrivés à une conclusion où ben, j'étais peut-être persona grata pour un essai, une tentative d'avoir un visa de journaliste officiel et 10 jours, ce qui est quand même,
c'est long, 10 jours quand même.
Extrêmement exceptionnel. Et je dois dire que là, j'ai eu une chance inouïe de pouvoir aboutir après tant d'années d'y aller.
Ça, c'est classique de ce genre de pays, mais particulièrement en Corée du Nord, quelqu'un qui vous attend aussi et qui ne va pas vous lâcher d'une semelle.
Oui, alors on arrive, il y a des contrôles à la douane, on regarde vos téléphones sont vidés. J'ai vidé mes téléphones de photos anciennes qui pourraient ne pas être acceptées. Mon ordinateur est vérifier, ils ouvrent, ils me demandent mon code, ils regardent.
Ah oui.
Ils savent très bien maîtriser, mais vous imaginez, toutes les marques, tous les codes, toutes les possibilités. Et après, mon guide est de l'autre côté, mon guide accompagnateur qui, effectivement, va m'accompagner pendant 10 jours.
Alors, il vous connaît bien, c'est ça qui est aussi intéressant. Il vous a lu, il vous a vu, rien n'échappe, évidemment. Je vous pose la question parce que vous avez écrit sur la Corée du Nord, vous n'avez pas toujours été tendre avec la Corée du Nord, mais pourtant, on vous choisit, entre guillemets.
Écoutez, oui, alors il est certain qu'ils me connaissent, ils savent mon cursus, ils savent ce que j'ai dit dans les émissions, sur les plateaux de télé, il y a la crise avec Trump depuis 8 mois, ils écoutent, ils voient comment j'appréhende la chose. C'est vrai que bon, moi j'ai pas une approche idéologique, j'ai aucune idéologie à vendre ou à défendre. Moi je crois que ce pays est vraiment méconnu, il est diabolisé depuis très longtemps, et je pense qu'on s'est trop focalisé pendant 20 temps sur des grandes thématiques légitimes comme les droits de l'homme, la situation des libertés et de la non-démocratie dans ce pays, ce qui est vrai, ce qu'ils acceptent, ils savent très bien qu'on ne peut pas défendre leur régime. Pour autant, on a échappé à la façon dont ça fonctionne.
J'ai une dernière question sur la forme, avant qu'on parle évidemment de fond. Oui. Vous avez été loin, 1400 km c'est beaucoup, est-ouest, est-ce que c'est vous qui avez dit « moi je veux aller là » ou est-ce que vous ne maîtrisez rien de ce parcours ?
J'ai fait une demande à l'origine, dire « bon, Pyongyang, je n'y échapperai pas parce qu'il faut absolument que je voie des choses à Pyongyang » et ça, on vous en même dans des endroits incontournables, c'est les lieux de naissance de Kim Il-sung, des choses très très emblématiques. Mais j'ai dit, j'aimerais beaucoup aller en province, j'aimerais vraiment aller sur la côte Est. C'est un endroit, il y a certains endroits que j'aimerais voir, c'est la côte, c'est en face du Japon, c'est là où les bombardiers américains ont survolé la zone il n'y a pas très longtemps, il y a la zone DMZ de l'autre côté. Donc j'ai fait cette
la
proposition,
zone
je dirais globale. Et après, eux ont choisi certains endroits pour m'amener à visiter un certain nombre de choses. C'est eux qui ont fait le programme.
Et est-ce qu'il y a eu beaucoup d'endroits où on vous a dit non, là vous prenez pas de photos, ou est-ce que finalement vous comprenez bien ce que vous avez le droit de faire avant que ça s'envenime en gros?
Alors écoutez, les militaires, vous n'avez pas le droit de les prendre en photo. Ça c'est une règle de base. Après, j'ai signé une sorte de contrat moral avec le guide accompagnateur. Tout dépend de l'état d'esprit avec lequel vous y allez. Si vous y allez en disant on va me mentir, on va me montrer que des choses qui sont vraiment du carton-pâte, etc. Vous allez vivre un enfer pendant 10 jours. Donc c'est pas la peine d'y aller. Vous restez chez vous, vous n'allez pas au Luxembourg ni en Allemagne, vous allez en Corée du Nord. Donc, avec le guide accompagnateur, excusez-moi, il y a une sorte de contrat moral qui s'est scellé entre nous. Je lui ai dit, écoutez, je vous demande est-ce que je peux prendre une photo, vous me dites oui. Vous me dites non, je respecte, et on va continuer comme ça. Et au fil des jours, je voyais très bien qu'en respectant le contrat, j'avais accès où il me disait oui beaucoup plus souvent qu'il ne m'aurait dit oui si j'avais commencé à faire un peu n'importe quoi.
Alors, ce qui frappe quand on vous lit, on vous lisait ce matin dans La Croix, on vous lira jusqu'à mercredi dans La Croix, raconter ce périple et ce voyage, c'est le discours que les Nord-Coréens, où que vous alliez, en fait, peuvent avoir, y compris vis-à-vis des Américains. On est prêt à revenir à l'âge de pierre, les sanctions nous font pas peur, salauds d'Américains. Est-ce que c'est un discours bien appris, ça, ou est-ce que c'est une propagande très efficace et donc ils y croient eux-mêmes?
C'est le message qui est diffusé par la télévision. Vous nous avez donné du son tout à l'heure de la présentatrice, la Léon Zitrone nord-coréenne, la radio et le journal officiel qui diffuse les informations que le régime veut faire passer à la population, à l'opinion publique. Il y en a qu'un. Et je dois dire que, en l'occurrence, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, vous connaissez bien les États-Unis. Trump, finalement, ne se rend pas compte qu'il est en train de servir sur un plateau d'argent et nourrit la propagande nord-coréenne pour cimenter, unifier toute la population derrière l'ennemi américain qui est là depuis la fin de la guerre de Corée en 1953.
Mais que ce discours prenne auprès des gens dans les campagnes qui ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre d'informations, etc., c'est une chose. Après, on sait tous qu'on vit une époque où c'est difficile de ne pas passer une frontière virtuellement, donc les clés USB, ça bouge, ça se transporte, le Wi-Fi depuis la frontière chinoise, ça transpire, donc ils savent quand même qu'il y a un autre discours. Qu'est-ce qu'ils en disent de ça?
Je dirais que globalement, la population, dans sa grande majorité, n'a pas le choix. Elle n'entend qu'un seul discours. Et vous avez une partie de la population qui est mouvante, qui est commerçante, qui bouge, qui circule, qui a le droit de circuler, qui fait du commerce. 30 kilomètres à l'intérieur de la Corée du Nord, à la frontière chinoise, vous avez les réseaux chinois. Donc vous pouvez communiquer de l'autre côté. Évidemment, des clés USB circulent, des DVD, des soap operas, des émissions de télévision du Sud, mais de Chine aussi. Donc effectivement, tout ça, par capillarité, tout ça rentre à l'intérieur pour une partie de la population. C'est vrai que la grosse partie n'a pas le choix et ne peut pas écouter toute cette variété de cultures, d'informations. Et j'ajouterais que ce sur quoi se précipitent les Nord-Coréens ou les Chinois nord-coréens qui circulent, c'est le divertissement.
Ça veut dire que ce qui circule sur le pays, ce qui circule politiquement, quand on peut y avoir accès, à minima, comme vous dites, on n'a pas forcément envie d'y aller, en fait, d'aller chercher ces informations-là.
Non, ils vont pas chercher la situation politique dans le monde, ils vont pas chercher les pays de la liberté, la démocratie, c'est pas les priorités de la population. C'est vrai que le quotidien est surtout sur comment on va travailler, comment on va vivre, est-ce qu'on va s'acheter des choses, enfin, c'est quand même ça qui domine.
Alors, ce que vous décrivez aussi, c'est un pays, et ça on a pu le dire à plusieurs occasions, c'est vraiment bien de le voir, c'est un pays qui fonctionne. On est dans des techniques, vous décrivez des techniques agricoles notamment qui serait celle de nos années 50, ou peut-être même un peu moins, mais on mange, on vit, à l'échelle de la Corée du Nord, on va dire, relativement bien, en tout cas bien mieux qu'à une certaine époque.
Alors, bien mieux qu'à l'époque de la famine dans les années 95, là il y a plus d'un million de morts au moins, on ne sait pas exactement, ça a été une phase terrible. Moi j'ai été en Mandchourie de l'autre côté de la frontière, en Chine à l'époque, et j'ai recueilli des témoignages de dizaines de réfugiés avec ma consoeur Juliette Morio, et là c'était le premier départ pour moi. Aujourd'hui, on vit beaucoup mieux, on mange, il n'y a plus de famine. En revanche, il y a des zones de malnutrition au centre du pays. La Corée du Nord, c'est 80% de montagne. Donc vous avez 20% de plaines cultivables, donc c'est beaucoup moins. C'est pas autosuffisant. Ils ont besoin d'importer du riz, du blé, du maïs. Mais c'est vrai que la situation s'est améliorée depuis l'arrivée de Kim Jong-un. Vraiment, il y a eu des réformes économiques. Et c'est, je crois, ce qui, moi, intuitivement, je le savais. J'avais lu, j'avais entendu. Mais là, de le voir, les vêtements, les voitures, les immeubles, les choses que l'on voit, les magasins qui sont très bien pourvus, faits en Corée, pas seulement importée, beaucoup de choses importées. Tout ça vous donne une image bien différente de celle qui est jusqu'à présent véhiculée.
Mais alors dans la rue, est-ce qu'il y a beaucoup de voitures? Est-ce que ça grouille? Est-ce que les marchés sont fournis? Ça ressemble à quoi quand on se promène comme ça dans une rue en Corée du Nord qui n'est pas Pyongyang?
Alors quand on n'est pas à Pyongyang, vous sortez, vous avez la grande autoroute, elle est quand même relativement...
Il n'y a pas de bouchons, rassurez-moi.
Il n'y a pas de bouchons. Vous avez un peu plus de minibus, de bus et de camions que d'habitude. Ça, c'est des témoignages que j'ai pu recueillir. Maintenant, effectivement, c'est quand même un pays qui reste pauvre, qui reste quand même isolé, en dépit des liens avec la Chine. Et bon, la campagne est pauvre, mais elle n'est pas miséreuse. En revanche, je veux dire, des voitures, vous avez le droit d'acheter des voitures privées pour les gens très riches. Et il y en a quelques-uns. Ils peuvent acheter de l'essence. Sinon, c'est vrai que ça n'est pas l'opulence. Ça, non, mais c'est juste, voilà, entre misère, opulence, pauvreté, vous avez cette variété-là. Et la société devient, témoignage d'officiel, inégale, capitaliste et qui ne correspond plus à un modèle socialiste.
Ah bon, c'est ce qu'on vous dit ?
Étonnamment, oui, c'est très étonnant. Et certains nostalgiques le déplorent et disent aujourd'hui, il y a des gens très riches, riches, moyens riches et encore pauvres. Donc, c'est quand même ça qui est en train de bouger.
On vous montre des usines, on vous montre des hôpitaux, on vous montre une usine de produits cosmétiques aussi. Oui. Et là aussi, je vous entends, je vous lis parler de turbines, de générateurs. Oui. Ça a l'air assez, assez minimaliste, on va dire.
Alors, c'est des machines-outils, c'est des vieilles machines. Ils ont la culture de l'entretien des machines. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir en acheter. Et donc, il y a des récompenses officielles sur l'entretien des machines. Dans les usines, vous avez des grands drapeaux qui vous disent « Cette usine a été récompensée parce qu'elle entretient bien son matériel. » Ça paraît bête pour nous, mais ceci dit, pour eux, vu la précarité des zones d'approvisionnement, c'est compliqué. On peut pas dire que ce soit la modernité à l'image de grandes usines chez nous. C'est pas les mêmes dimensions Ceci dit, avec ce qu'ils ont, ils arrivent à faire beaucoup de choses sur le plan alimentaire, le plan cosmétique. Il y a deux grosses usines de produits de beauté à l'origine pour les unités militaires féminines dont le leader s'est préoccupé pour qu'elles aient de la crème, etc. Ce qui est quand même, vous vous dites, ils s'occupent de tout. Mais c'est en compétition, ces deux marques. C'est deux marques en compétition.
Le capitalisme gagne donc.
Mais oui, non mais il faut le dire aussi. C'est la Chine de la fin des années 70 et 80.
Alors, vous parliez des sanctions quand même tout à l'heure. Est-ce qu'elles se font sentir ou pas? Parce que là, pour le coup, on a l'impression qu'on a été une marche beaucoup plus loin, puisque même la Chine a décidé d'opérer ces sanctions-là. Oui. À un moment, ça va bien finir par bloquer réellement. Donc, est-ce qu'on le sent déjà? Est-ce qu'ils craignent que ça commence à se sentir ou pas?
Alors, on ne peut pas dire qu'on le sent. On ne le sent pas encore. Je veux dire, concrètement, dans le quotidien, vous avez encore de l'énergie, vous avez encore des produits, vous avez encore de la productivité. Mais, effectivement, dans les mois qui vont venir, les vraies sanctions économiques ne datent réellement que de septembre 2016. C'est vraiment un an. Donc, il y a un peu de marge. Ceci dit, c'est vrai que si le flux financier est de plus en plus serré et coupé pour alimenter et le circuit économique qui a changé depuis quelques années, ça va poser des problèmes. Mais là encore, cette détermination nationale, unitaire de lutter est assez fascinante parce qu'il n'y a pas le choix. Tout le peuple est sous le même message. On va s'en sortir quoi qu'il arrive. Ils ne nous feront pas flancher. Et nos missiles aujourd'hui, nous maîtrisons le nucléaire et nous nous défendrons et nous sommes protégés désormais.
Ça veut dire que ce que je vous entends, eux pensant que le monde ne nous prend pas au sérieux finalement, et vous allez voir ce que vous allez voir parce que nous sommes des gens sérieux.
Ça, je pense que ce qui peut être sous-estimé par certaines chancelleries, mais à mon avis, elles se voilent pas la face, elles savent très bien, mais elles veulent pas l'avouer parce que ce serait compliqué d'avouer cela. Mais pour les Nord-Coréens, c'est sûr qu'ils ont la puissance nucléaire, ils ont des têtes de nucléaire. Maintenant, les officiels, certains m'ont dit, écoutez, et froidement comme ça, sans ciller, ils me disent, bon, tant que nous ne montrerons pas notre champignon atomique au-dessus de l'océan, on ne nous prendra pas au sérieux. Ils n'ont pas construit tout leur programme pour la regarder. Donc ils se disent qu'à partir de ce moment-là,
il y en aura d'autres et il y aura même un champignon selon vous. Alors avec un peu de chance au milieu de la mer, on est d'accord, mais il y aura un champignon.
Je dis, il ne faut pas qu'ils ratent leur coup, mais c'est vrai qu'il y aura encore quelques essais de missiles. Je pense que c'est un peu calme là. En général, il y a le congrès du PC chinois et je pense que oui, ça risque d'arriver.
Dorian Malovy, qu'on vous lit avec plaisir dans La Croix. Donc c'était aujourd'hui, demain encore, et puis jusqu'à mercredi. Et puis je rappelle que vous avez écrit La Corée du Nord en 100 questions. C'était avec Juliette Morillo. Et merci de votre présence dans
Un jour dans le
monde. France Inter. Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
Allez, la suite d'Un jour dans le monde avec Eva Bétan, dans le bon ordre. Vous, vous revenez de Roumanie, Eva, et visiblement, on a envie que les Roumains aillent au cinéma.
On a envie que les Roumains aillent au cinéma, et moi, je vais vous dire, c'est un moment de grand bonheur parce qu'il y a trois autres endroits où j'ai envie d'aller, où la cinématographie est passionnante. En Corée du Sud, en Israël et en Iran. Mais il y a déjà un de fait, c'est la Roumanie. J'ai plein de choses à vous raconter.
Eh ben, écoutez, on sera ravis de vous entendre. En tout cas, c'est dans un instant. À suivre aussi 110 dauphins aux îles Fidji, figurez-vous, pour le feuilleton écolo ce soir. Et puis la chronique du journal Le Monde, ce sera Christophe Ayad. A tout de suite, voici Nick Mulvey, Unconditional.
Unconditional, Venus by my side, uncontainable. No way you can hide, it's something to know. No matter where you are, the Venus light is shining in your star. And it's back in my heart again, saying that you do. Indivisible, loving inside you.
Il s'appelle Nick Mulvey, Unconditional sur France Inter.
Power Hit Radio.
Magique FM.
Terra de la Tula.
Desservi, prise faux.
60 minutes.
Sous les radars, c'est l'information internationale que Florence Paracuelos va chercher là où vous ne la trouverez pas vous-même. Florence, ce soir, on commence par un homme qui défie Pékin.
Il s'appelle Guo Wengyi, ni dissident, ni intellectuel, ni artiste en exil. Guo Wengyi est un multimilliardaire qui vit confortablement à New York, dans un appartement à 68 millions de dollars. Il fréquente Goldman Sachs, Tony Blair et les membres du club privé de Trump à Palm Beach. Et cette semaine, il menace de plomber le 19e congrès du Parti Parti communiste qui commence demain et qui va reconduire Xi Jinping pour 5 ans à la tête du pays. Guo Wengyi promet des révélations sur la petite bande de mafieux qui dirige la Chine, ce sont ses mots, pays qu'il compare à la Corée du Nord. Et s'il fait trembler le pouvoir, c'est qu'il a fait lui-même toute sa fortune dans l'immobilier là-bas en Chine, au contact de ceux qu'il dénonce aujourd'hui, plus précisément depuis le printemps dernier. Et c'est une interview à Voice of America en chinois, première d'une longue série, sans compter les vidéos dans lesquelles il aime se mettre en scène et se vanter de pouvoir faire tomber le premier cercle du pouvoir. Dans son viseur, entre autres, le numéro 2 du régime en charge de la lutte contre la corruption qu'il accuse de diriger secrètement l'un des plus gros conglomérats chinois. Cette semaine, Guo Wengyi promet de balancer ce qu'il sait dans une vidéo en direct pendant le congrès. Apportera-t-il des preuves de ce qu'il avance? Il ne l'a jamais fait jusque-là. Est-il un chevalier blanc ou un grand mégalomane? C'est toute la question.
Et on devrait le savoir très vite, Jean, par exemple, demain ou après-demain. À l'autre bout de la planète, Florence, le Mexique qui s'attaque enfin au drame de ses disparus.
Ils sont 33 000 depuis 2007, des étudiants, des journalistes, des femmes, des hommes sans distinction. Leur route a croisé celle des cartels de la drogue. Leurs ossements sont régulièrement retrouvés dans des fosses communes disséminées sur le territoire et leurs familles, jusque-là, étaient livrées à elles-mêmes, obligées de chercher leur corps par leurs propres moyens, comme cette femme, la mère d'un disparu de Veracruz, qui raconte dans un documentaire diffusé par El País son inscription à un cours de médecine légale pour retrouver son fils. D'abord, tu dois savoir quel cartel opère dans le coin. Ensuite, tu y vas avec des bottes, des gants, un masque. Et tu dois manger léger parce que tu vas beaucoup marcher. Et tu dois savoir si la terre est molle ou dure. Voilà à quoi en étaient réduites les familles de disparus, creuser elles-mêmes la terre ou payer d'autres pour le faire. Un scandale dans le scandale auquel le Congrès mexicain vient de mettre fin. Une loi sur les disparitions forcées a enfin été adoptée. Les autorités désormais vont se charger des recherches et un fichier national des disparus sera créé.
Enfin, Florence, cap un peu plus au nord, à Biloxi, c'est au Mississippi.
Là-bas, le proviseur d'un collège a jugé bon de suspendre séance tenante le travail d'une classe de quatrième sur un classique de la littérature américaine, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, roman de 1960 qui raconte la ségrégation dans les États du Sud, un bel objet littéraire, historique et civique signé Harper Lee, prix Pulitzer en 60, qui ne sera donc plus enseigné au collège de Biloxi parce que des parents se sont plaints de l'utilisation du N-word. C'est la façon qu'ont les Américains de ne pas employer le mot nègre, qui est évidemment présent dans le livre comme il l'était dans le film oscarisé de 62 avec Gregory Peck.
Atticus, do you defend niggers?
Don't say nigger, Scott.
Comment parler de la ségrégation raciale dans les années 60 sans utiliser les mots de l'époque? C'est un peu comme si on censurait le vieil homme et l'enfant parce que Michel Simon dit des horreurs sur les juifs, alors que l'objet du film, comme l'objet du livre d'Harper Lee, c'est justement de démentir les stéréotypes racistes. La décision de l'école de Biloxi, et c'est rassurant, a suscité beaucoup d'incompréhension aux États-Unis, critiquée par l'ancien secrétaire à l'éducation de l'administration Obama ou encore par un sénateur républicain du Nebraska avec ses mots, nos enfants sont assez solides pour lire un vrai livre.
Merci beaucoup Florence Paracuelos, sous les radars comme tous les jours.
France Inter, le 18-20.
Et nous sommes en Roumanie ce soir. En Roumanie, mais pas n'importe où, c'est dans une salle de cinéma que nous sommes en ce moment pour un festival de cinéma. Et c'est vrai que quand on parle festival de cinéma, on passe pas forcément tout de suite à la Roumanie. Bonsoir, Eva Béton.
Vous avez tort, mais c'est vrai.
Voilà, festival de cinéma à Bucarest. Des jours de cinéma roumain.
Oui.
Vous devriez être au 7e ciel, Eva, parce que vous n'avez pas si souvent l'occasion que ça de parler ici de cinéma roumain. En voilà une belle
mais
occasion.
Dès qu'il y en a une, je la prends. Hein.
Mais je vois bien que vous la prenez et que vous ne bougez plus de l'antenne. Voilà donc un festival, en tout cas, organisé par Christian Mungiu, qui a été Palme d'Or. C'était déjà il y a 10 ans, je crois pas ça. Ça faisait 10 ans déjà pour 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Je me moque de vous, mais c'est vrai que ça fait quoi? Depuis
10,
à peu près
ans.
Ça, voilà,
oui,
à peu près ce temps-là, 10 ans,
3,
15
ans avant ça.
Qu'est ce qu'on appelle la nouvelle vague roumaine, un peu comme la nouvelle vague chez nous finalement. Les cinéastes roumains aimeraient par-dessus tout, par ailleurs, que les Roumains puissent en profiter aussi.
Un peu, oui.
Et du coup, ça valait le coup d'aller sur place.
Alors, l'inauguration du festival a eu lieu comme il se doit dans un cinéma. Une allée, un restaurant branché et un cinéma dans un même ensemble. On pourrait être n'importe où, mais on se dit que non, on n'est pas n'importe où quand le producteur Tudor Réou nous présente mieux les lieux.
L'endroit où on est, c'est le musée du paysan roumain, qui auparavant était le musée du mouvement communiste jusqu'à 1989. Et puis on l'a retransformé en musée du paysan. Et ça, c'est, bon, c'est la boîte du musée. C'est un endroit très hipster qui a une salle de cinéma pour des films d'auteur, films d'art, films roumains, etc.
Voilà pour le lieu, donc voilà, hein, le palais du festival, voilà, en quelque sorte. Comment s'appelle le festival, justement?
Ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui. Les films de Cannes à Bucarest.
Ah ben voilà.
Alors oui, une grande partie des films de Cannes, dont la Palme d'Or, il y a beaucoup d'artistes qui vont venir aussi, sont projetés ici. Mais à côté de cela, on voit aussi les nouveaux films roumains et on se dit que Christian Mungiu est intelligent, il a tout compris. Un, de l'intérêt du festival. Deux, de la puissance du label Cannes. Thierry Frémaux l'a aidé au départ à créer ce festival, il l'a autorisé à utiliser le label. Le premier but de Mungiu est quasi éducatif, habituer les Roumains à voir un nouveau du cinéma d'auteur qui a quasiment disparu de leurs écrans, mais ce n'est pas le seul but de Christian Mungiu.
Je ne sais pas même pas si on peut l'appeler un festival, c'était plutôt une initiative que j'avais d'essayer de voir si on peut trouver un public, si on peut former, créer un public ici pour le film qui passe à Cannes. Et après que nous avons vérifié ça, nous avons commencé à vérifier si on peut aussi amener des gens qui peuvent un peu aider la communauté des cinéastes, parce que le cinéma vraiment a beaucoup de succès dans des autres pays. Mais quand même, il n'est pas vraiment assez développé ici chez nous.
C'est un euphémisme parce que là, on touche à l'absurde. Les films roumains font une razzia sur les prix dans les grands festivals, mais ils ne sont quasiment pas vus par les Roumains. Je dis quasiment par politesse. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de salle, tout simplement. Des multiplexes ont été construits dans des centres commerciaux des grandes villes, mais ils passent des blockbusters. Et à part cela, combien reste-t-il de salles, entre guillemets, classiques, qui pourraient projeter des films roumains ? Écoutez Alexander Belk, écoutez le chiffre qu'il va prononcer. Il a fait un documentaire Cinéma Mon Amour sur les salles de cinéma en Roumanie.
J'ai découvert que de 400 cinémas, on était passé à 24 qui fonctionnaient encore. Et ce nombre a un peu baissé ces deux dernières années. 20 cinémas seulement sont encore actifs. Et je ne compte pas là-dedans les multiplexes. Je parle des salles classiques qui dataient de l'époque communiste ou même d'avant.
Vous voulez dire à Bucarest ou dans toute la Roumanie ?
Dans tout le pays. C'est le chiffre. Il y a un paradoxe. Nous avons des films couverts de prix, mais les réalisateurs ne peuvent pas montrer leurs films au public roumain. Ils doivent trouver d'autres moyens, comme par exemple organiser des caravanes. Et ils projettent leurs films de ville en ville, dans des lieux alternatifs, comme des instituts culturels, des clubs, ou tout simplement en plein air, sur une place.
Visite dans une salle de cinéma hors service, en plein centre de Bucarest, ça s'appelle la Scala. Une salle unique, 860 fauteuils bleus, les murs sont moutardes, grande entrée Decati. Nous attend Yvette Fulicea. Le cinéma avait été nationalisé en 1948 et sa famille envoyée en prison. La révolution a eu lieu il y a quand même 27 ans. Elle vient seulement de récupérer le cinéma de sa famille.
C'est un cinématographe qui a été construit par ma famille entre les deux guerres. C'était à l'époque la plus grande salle de cinéma de Bucarest. Ma famille l'a récupéré finalement il y a moins d'un an, après plus de 60 ans.
Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant alors ?
On ne pourra jamais investir. On espère trouver, je ne sais pas, après votre interview par exemple, que Gaumont me sollicite et qu'on fasse, avec la cinématographie roumaine, un énorme projet de salle de cinéma à Bucarest, ouais, par exemple.
Cette responsabilité que vous avez, Eva, parce que maintenant il faut que Gaumont les appelle. On rit parce que voilà, mais enfin c'est extrêmement sérieux ce qu'elle dit,
ouais, et
c'est important pour cette dame. J'allais vous demander ce que faisait l'État.
Que fait la police?
Bah oui,
non, mais
enfin,
oublions
voilà,
la police plutôt la
déjà
puissance
la
publique.
Réponse,
oui.
Ouais.
Ben, rien.
Voilà.
Il est clair que l'impulsion ne vient pas de là, et on voit que Mungiu est en train de dépenser une énergie hallucinante. Il veut aider à réhabiliter les salles, mais c'est bien plus que cela. Christian Mungiu.
On doit prévoir toutes les étapes que tu as besoin pour avoir une vraie industrie de cinéma. Parce que pour le moment, par exemple, on produit assez de films. Pour nous, on produit, je sais pas, 10 films, 12 films par an. Mais pourquoi produire des films si tu n'as pas la capacité de les distribuer en salle? Et alors, l'idée que j'avais toujours est de tout intégrer dans un système qui peut prévoir le développement de toutes les étapes en même temps. La production, la distribution, mais en même temps, ces productions pour les grandes boîtes étrangères. Il y a 10 ans, je crois que j'ai écrit ces stratégies pour notre ministre de la Culture. Mais le problème est que dans les derniers, disons, 10 ans, on avait presque, je sais pas, 16, 17 ministres. Alors, ils n'ont pas vraiment le temps et l'énergie pour amener le cinéma vraiment à un autre niveau.
Alors, dans cette vision d'ensemble, quand même, il ne faut pas oublier d'assurer les bases, les fondamentaux, c'est-à-dire la présence des films roumains dans les festivals. On nous a montré des films qui n'étaient pas encore finis, work in progress, comme on dit quand c'est chic. Il y a la présence des sélectionneurs de festivals de Tokyo, de Locarno et un Français très important, Arnaud Gourmelin, parce qu'il programme à la fois le festival Premier Plan d'Angers pour les premiers films et il fait partie très important du comité de sélection de la quinzaine des réalisateurs de Cannes. Mais oui, Cannes. Et qu'est-ce qui a mis un éclair dans son regard? C'est un extrait de 3 minutes. 3 minutes seulement d'un film de Radu Muntean, Alice.
Domnul, văd așa că ați pregătit un fel de rechizitoriu și că ați decis deja că Alice trebuie să schimbe școala. În primul rând, eu n-am venit aici să discut asta.
Arnaud Gourmelin va nous expliquer.
Moi, il y a un simple clip d'un film que j'ai vu tout à l'heure qui m'a tout de suite saisi. Je me suis dit, ah, je veux absolument voir ça. L'extrait que j'ai vu du nouveau film de Radu Muntean, celui qui se passe à l'école entre la proviseur et la mère. Cette espèce d'affrontement comme ça où tout de suite, on a l'impression de connaître les personnages alors qu'après quelques dizaines de secondes. C'est une simple scène, c'est un chant contre chant, mais les acteurs, enfin, il y a tout de suite une vérité qu'on sent. Voilà, Radu Muntean est un grand metteur en scène et ça se ressent tout de suite.
Bon, ben alors à suivre, ouais. On verra qu'est-ce qu'on trouvera à Cannes, on verra.
C'est ça. Bon, il y aura sûrement des films roumains à Cannes.
C'est fou quand même, elles sont si bien que ça, ces 3 minutes, vous les avez vues?
Oui, bien sûr, je les ai vues aussi. Et c'est vrai, il y en a plusieurs qui sont bien parce que vous voyez la puissance. Et là, il y a le côté sec, coupant. Je ne veux pas faire de généralisation, mais il y a les sortes de pattes dures du cinéma roumain. Et justement, au fameux Radu Muntean, j'ai demandé qu'est-ce qu'il y avait de commun dans cette nouvelle vague, tentative d'explication.
Nous avons tous à peu près le même âge. Nous avions 18-20 ans au moment de la Révolution. Nous avons grandi dans cette nouvelle société roumaine. Je pense que, pour moi, comme pour certains autres cinéastes, tout est parti de notre regard sur le vieux cinéma roumain, le cinéma de l'époque communiste. À cause de la censure, les cinéastes ne pouvaient pas s'exprimer comme ils le voulaient, et c'est pour ça que les films de cette époque sont couverts de métaphores, avec plusieurs niveaux de lecture. Alors, nous avons voulu faire tout le contraire.
Alors, le désir d'ouverture n'a pas de limite. Et pourquoi ne pas coproduire avec des pays lointains? La France est déjà fait, est un très bon financeur du cinéma roumain. Et là aussi, au cinéma comme ailleurs, la puissance de la Chine, ça fait rêver. Madame Sun Pench est ouverte à l'international, semble-t-il, puisqu'elle a produit The Chinese Widow, film chinois réalisé par le Danois Billy August. Coproduire avec la Roumanie, pourquoi pas, dit-elle.
Ce qui m'intéresse en premier, c'est leur compétence dans la manière de raconter des histoires, ce qui est essentiel pour tout cinéaste. Ensuite, il y a leur détermination qui est frappante.
C'est aussi un pays qui a connu le communisme et la génération de cinéastes qu'on voit là, c'est celle qui est née après la chute de Ceausescu.
Je peux trouver des points communs avec ces réalisateurs roumains, en particulier à cause de leur passé communiste, ici en Roumanie. Nous pouvons nous retrouver dans des manières de penser, de raconter des histoires.
On verra ce que ça donnera pour les tournages. Ça a marché puisque Jacques Audiard, qui était venu présenter un film il y a 2 ans, on lui a montré les avantages de la Roumanie et il a tourné une partie de son film qui s'appelle Les Frères Sisters, Brothers Sisters, avec Joachim Phoenix en Roumanie. L'histoire se passe au 19e siècle et c'est Andrea Petrujinski qui a fait le casting roumain du film.
J'ai fait le casting de 300 personnes. Il n'y avait que 40 femmes. Le reste, ce sont des hommes.
Qu'est-ce qu'il vous a demandé?
Il m'a dit que pour les hommes, il voulait des hommes beaux, avec des cheveux longs, avec des visages minces, parce que à l'époque où l'histoire du film se situe, les gens n'étaient pas gros. Et cela n'a pas été très facile, mais on a trouvé tout ce qu'il voulait. Des gens très importants ont voulu absolument être dans le film. J'ai eu un ambassadeur de Roumanie, il m'a dit « Andrea, je veux jouer dans ce film. Je veux juste être avec Jacques Audiard et avec les acteurs. » Il y a eu aussi des chefs d'entreprise et tous disaient « Je veux être dans ce film. »
Et j'ai vu la photo de l'ambassadeur de Roumanie quelque part, je dirais pas où pour ne pas que sa hiérarchie l'engueule, en costume d'époque, il était pas mal.
Allez, longue vie donc au cinéma roumain. Merci beaucoup Eva Bétan. Vous connaissez les Liminanas?
Je veux savoir.
Istanbul is sleeping. Minanas, Istanbul is sleeping.
France Inter.
Climate change is real.
Fabienne Sintès.
It is happening right now. Let us not take this planet for granted.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série. Le mardi, on feuilletonne le pire et le meilleur de l'environnement depuis la COP21. 110 dauphins. Dans le dernier épisode, on parlait ensemble de dioxyde de carbone en conserve. Ce soir, c'est très classieux. Sandy, où vous êtes? Attendez, je dis pas, tiens, voilà un indice. Voilà, ça fait un peu envie. Vous êtes aux îles Fidji. C'est Fidji qui présidera la prochaine COP, la COP23. Bonsoir Sandy.
Bonjour, ou plutôt Boula comme on dit ici.
Voilà, et ben Boula vous aussi Sandy. Alors Fidji prépare le terrain, accueille une soixantaine de délégations en ce moment même. Il faut rappeler que les Fidji sont parmi les plus vulnérables au changement climatique. Et tous ces petits états insulaires du Pacifique veulent rappeler aux signataires de l'accord de Paris qu'il est peut-être temps de se dépêcher.
Oui, les Fidji commencent déjà à relocaliser des villages de pêcheurs touchés par la montée des eaux et l'érosion du littoral. Le village de Vunidogoloa est le premier à avoir déménagé en 2014. Imaginez des cocotiers penchés sur une plage de sable fin, sauf que le décor de carte postale prenait l'eau. Sailusi Ramatou est le chef du village.
This is my first house.
Alors le monsieur nous dit, ici c'est ma première maison. Il faut imaginer, on est sur la plage, juste à 3 mètres de l'eau. Il reste une petite fondation, c'est un petit carré qui fait 1 mètre sur 1 mètre en béton. Et donc il n'y a plus rien bien sûr.
J'ai construit plus loin à cause de l'eau. J'ai déménagé 3 fois dans le village. Et la quatrième fois, c'était la délocalisation vers le nouveau site. Venez.
On rentre dans une maison abandonnée. Vous aviez beaucoup d'inondations ?
Oui, en cas de grande marée, toute l'eau rentrait dans le village.
Alors aujourd'hui, un nouveau village a été construit en hauteur. Derrière la colline, une trentaine de maisons vertes équipées d'un panneau solaire, entourées d'arbres fruitiers, papayes, bananes, mangues. Le village est devenu la vitrine du gouvernement fidjien. Il faut des financements pour d'autres relocalisations. Des visites guidées sont proposées aux délégations présentes à cette pré-COP 23.
Alors justement, on s'en dit, à quoi elle sert cette pré-COP 23 ?
En fait, ce sont des discussions très techniques pour préparer le grand sommet climat de novembre, la COP 23 à Bonn, en Allemagne. Les Fidji n'avaient pas les moyens d'organiser une telle réunion à domicile. Alors les discussions se déroulent dans un immense complexe hôtelier construit sur la plage. Les délégués doivent porter une tenue décontractée. On voit beaucoup de chemises à fleurs. Le Premier ministre fidjien Vorek Bainimarama a tenu à accueillir cette pré-COP chez lui, histoire de braquer les projecteurs sur les petites îles du Pacifique Sud.
Nous, dans le Pacifique, nous n'avons pas besoin qu'on nous fasse la leçon sur les risques. Les Fidji ont été frappés l'année dernière par le cyclone le plus puissant qu'ait connu l'hémisphère sud. Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a urgence. Il faut une volonté politique, une coopération, un dévouement constant pour rester sous la limite de 1,5 degré. C'est ce que nous devons soutenir à Bonn.
Oui, alors Bonn, c'est là qu'aura lieu, hein, la COP 23. 1,5 degré quand même, 110, ça paraît de plus en plus compliqué, non ?
Oui, la fenêtre de tir rétrécit, Nicolas Hulot le reconnaît. Il est l'un des rares ministres de l'Environnement à avoir fait le déplacement.
Moi, j'ai tenu à être là simplement parce que c'est la première fois qu'un État insulaire organise une COP. Et donc pour moi, il y avait un impératif presque moral, quelle que soit la distance qu'on peut avoir avec eux, d'être à leur côté dans cette première partie de la COP 23.
Et juste une dernière chose, Sandy, on parle un peu de Donald Trump en ce moment, aux Fidji, de son retrait de l'accord de Paris ou pas ?
La délégation américaine est là, puisque le retrait n'est pas encore effectif. Vous savez, c'est une réunion de diplomates, le langage est feutré. Mais dans les couloirs, certains délégués sont un peu moins langue de bois que d'autres, comme Ian Fry, le chef de la délégation des Tuvalu, ce micro-État du Pacifique Sud voisin des Fidji.
Des pays comme les Fidji sont très vulnérables au changement climatique. Ils ont des cyclones. Mais au moins, ils ont des montagnes sur lesquelles ils peuvent grimper. Au Tuvalu, il n'y a nulle part où aller. Le point culminant se trouve à 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. En 2016, on a eu le cyclone Pam. Et les vagues ont carrément traversé 3 de nos îles. Donc nous sommes vraiment aux premières loges du changement climatique. Et qu'un leader mondial le nie, ça n'a pas de sens.
Le grand frère fidjien a proposé d'accueillir les habitants de Tuvalu s'ils deviennent des réfugiés climatiques. Un refus poli pour l'instant.
Sandy, dauphin, Boula donc. N'oubliez pas de revenir des îles Fidji la semaine prochaine. Et la chronique du journal Le Monde dans Un jour dans le monde avec Christophe Ayad ce soir. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Fabienne.
Savez-vous qui est l'homme le plus puissant du Proche-Orient ?
Eh ben non, mais vous allez me le dire.
Alors, c'est Rassem Soleimani. Est-ce que vous connaissez Rassem Soleimani ?
À peine, mais en fait non, pas du tout, mais je voulais pas passer pour une idiote, allez-y.
Rassem Soleimani, c'est un militaire iranien. Il a fait ses classes pendant la guerre contre l'Irak, durant laquelle on lui attribue déjà plusieurs exploits derrière les lignes ennemies. Aujourd'hui, il dirige la force Al-Quds. C'est le corps d'élite des Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui sont eux-mêmes une sorte d'armée dans l'armée du régime iranien. Bref, c'est la crème de la crème. Et aujourd'hui, c'est l'heure de gloire de Rassem Soleimani. Il est au sommet de son pouvoir.
Alors pourquoi son heure de gloire ?
Eh bien, il règne sur la moitié du Proche-Orient. C'est pas mal.
Oui, c'est bien. C'est grand.
La chute d'Alep et la reconquête de Bachar el-Assad, c'est lui. Grâce aux combattants chiites qu'il a envoyés aider le régime syrien. La victoire de l'Irak contre Daesh, c'est lui aussi. Pas lui tout seul. Mais il a mis sur pied et armé les milices chiites qui ont stoppé l'offensive djihadiste de 2014. Ces milices qui ont combattu jusqu'à la chute de Mossoul et des dernières villes tenues par Daesh. Et enfin, la défaite des Kurdes à Kirkouk lundi, c'est Soleimani encore. La veille de l'offensive irakienne, en effet, il était venu négocier discrètement le retrait des forces de l'UPK, l'un des deux grands partis kurdes, ce qui a provoqué la débâcle des Peshmerga.
Mais alors Christophe, pourquoi Soleimani, un général iranien, se mêle-t-il de l'avenir du Kurdistan d'Irak ?
Parce que Rassem Soleimani, il est le bouclier de l'Iran. Son bouclier et son épée d'ailleurs. Dans son pays, on le vénère. C'est lui qui mène toutes les opérations hors des frontières iraniennes pour protéger son pays. Le protéger de Daesh ou encore empêcher la naissance d'un Kurdistan indépendant qui ferait tache d'huile jusque dans son propre pays. Mais Soleimani, il ne fait pas que défendre l'Iran. Il le fait régner dans tout le Proche-Orient. Et il a plutôt bien réussi. En Syrie, en Irak et même au Liban, il fait la pluie et le beau temps. Le Hezbollah, le célèbre parti chiite qui domine le Liban, est son meilleur allié. Et son influence s'étend jusqu'au Yémen, où il arme les rebelles chiites qui tiennent tête à l'Arabie Saoudite.
Et on imagine qu'il a aussi donc pas mal d'ennemis.
Oui, Fabienne, et des ennemis puissants. D'abord, le roi d'Arabie Saoudite, son grand rival dans la région. Mais aussi Benjamin Netanyahou, qui le considère comme la pire menace pour Israël. Et enfin, et surtout, Donald Trump, qui vient de décréter des sanctions du Trésor américain contre les gardiens de la révolution iranienne, c'est-à-dire contre Soleimani. On lui souhaite bon courage, car la principale qualité de Soleimani, c'est la patience et l'opiniâtreté.
Merci beaucoup Christophe Ayad du journal Le Monde. Le 18-20 continue sur France Inter avec le téléphone sonne, et c'est juste après Sébastien Pavot.